avec Jean-Simon Buis.
Ben, il est déjà 5 heures. Bon matin. Bienvenue dans cette amorce du mardi 26 novembre 2019. Alors que j'ai troqué temporairement mes bottes pour des souliers. Les températures se sont franchement radoucies dans les dernières heures. On en profite. On fait un petit peu de déni en se disant que le peu de neige qu'il y a sur le sol va disparaître, alors que c'est pas du tout le cas. Mais bon, j'aime bien ça me dire qu'on peut en profiter un petit peu encore quelques jours avant de tomber dans des températures qui vont rester hivernales pour les prochains mois. Mais pour l'instant, on est au-dessus des normales de saison et on va pas se plaindre, je vous le garantis. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Maximum de 4 degrés avec de la pluie ou de la brune intermittente. Donc c'est gris, par contre c'est assez chaud. Par contre, on risque ce matin de recevoir un peu de brune verglaçante s'il fait un peu plus froid. Remarquez que pour l'instant, on est au-dessus de zéro, donc on risque de s'en sauver. Demain, mercredi 27 novembre, le soleil se pointe le bout du nez avec des éclaircies, même si c'est généralement nuageux. Le maximum est prévu à 2. Jeudi, on aura droit à la journée la plus chaude de la semaine, 5 degrés prévus au mercure avec alternance de soleil et de nuages. Et à long terme, de bonnes nouvelles pour vous, le week-end qui se profile vendredi, le Black Friday. Il va faire du soleil avec moins 1. Samedi et dimanche, on a du soleil également qui sont prévus, mais les températures qui vont être à la baisse. Et présentement, on a 1 degré. Parlant de température, ben on a pris un peu le pouls de la température financière de la Ville de Québec hier. On va commencer par ça dans l'actualité ce matin. On va décortiquer ensemble le budget pour l'année 2020 de la Ville de Québec. Régis Labeaume qui a présenté ça hier. On avait déjà quelques informations, notamment en lien avec la hausse de taxes qui est prévue pour l'an prochain pour ce qui est des propriétaires et également des commerçants. On avait déjà appris que c'était en moyenne 1,3% de hausse de taxes. Ok, là on a un petit peu le fin mot de ce que c'est selon les secteurs. Fait qu'on va décortiquer ça ensemble. Je pense que c'est ça qui est plus intéressant en premier là. Combien ça va nous coûter de plus ou de moins cette année? Ben la majorité des secteurs c'est un peu plus que ça va coûter parce que dans le fond on est en train d'harmoniser les taxes là. C'était la dernière année d'harmonisation des taxes avec les anciennes municipalités avant les fusions. Il restait Val-Bélair à compléter, là, mon coin de pays à régler. Ce qui fait en sorte que, personnellement, je vais avoir une petite baisse de taxes, mais majoritairement, dans la ville de Québec, il y a une hausse. Par exemple, à Beauport, c'est 1,6%. Charlebourg, 1,6%. Sillery, Vanier, Sainte-Foy, on a la même chose. Québec, t'as 1,4%. Lac-Saint-Charles, 1,3%. Saint-Émile, 1,2%. Cap-Rouge, 1,2%. Loretteville, un petit 1%, et Val-Bélair, comme je vous le mentionnais, les chanceux du Nord, on va avoir un moins 3,5% cette année, mais c'est la dernière année que ça va vraiment différer du reste de la ville, parce que, comme je vous l'expliquais, il faut qu'on ramène ça un peu égal, compte tenu des anciennes taxes qui étaient prélevées par les anciennes administrations municipales avant les fusions, pour un total d'environ 33 $ de hausse. Si on parle d'une évaluation moyenne de 283 000 $, bon, vous comprenez que ça va varier selon la valeur foncière de votre propriété. L'autre chose pour dire qu'on maintient ça à l'inflation, c'était une promesse du maire Labeaume, mais reste quand même que ça monte. Quand même quelques surprises dans le budget hier, parce que sachez que côté financier, ça semble très bien aller à Québec. On semble nager dans les surplus, donc on est allé vraiment en mode investissement. Donc on a vraiment mis l'accent sur le fait que dans les 5 prochaines années, on y va à fond dans les emprunts, on y va à fond dans l'injection de capitaux dans les grands projets de la Ville de Québec, notamment le projet de réseau de transport structurant. Et au lieu d'y aller sur 3 ans, de faire un étalement des fonds sur 3 ans, on a décidé de présenter un plan quinquennal, donc sur 5 ans. Et on parle d'investissements d'environ 5 milliards de dollars qui vont être injectés en fonds publics dans les 5 prochaines années. Là-dessus, 1,9 milliard de dollars pour le réseau structurant. Ça fait en sorte nécessairement que si vous mettez plus d'argent dans les investissements de la Ville de Québec, ben c'est certain qu'il y a certains autres secteurs qui risquent d'en pâtir un petit peu, notamment le service de la dette. Hein? Alors, beaucoup de personnes font remarquer ce matin, notamment François Bourque dans sa chronique dans le Soleil, c'est intéressant. Une administration municipale standard, normale, aurait choisi d'utiliser les surplus pour baisser les taxes et injecter davantage d'argent dans la dette. Or, on continue de monter les taxes et on baisse moins la dette que prévu, alors qu'on met beaucoup, beaucoup d'investissements. Il y a un danger là-dedans qui est relevé aussi par plusieurs personnes ce matin, c'est que présentement, ça va très bien, sauf que il suffit qu'économiquement, ça aille un petit peu moins bien dans les prochaines années pour que tout à coup, le plan quinquennal soit revu un petit peu, revu et corrigé. Mais bon, c'est certain qu'une ville ou une administration publique peut toujours évoquer des délais supplémentaires, dire qu'il y a des retards dans certains investissements, dans certains projets. Alors peut-être qu'on joue un petit peu là-dessus. Mais ceci étant dit, la dette devait être abaissée de 27 millions de dollars l'an prochain. Or, elle ne le sera que d'environ 11 millions de dollars, ce qui fait en sorte que, évidemment, on va aller en enlever un petit peu, en gruger un petit peu moins sur le passif de la ville de Québec. En soi, c'est pas nécessairement un drame parce qu'effectivement, Québec est en bonne posture par rapport aux villes similaires en termes d'endettement. On est dans les villes les moins endettées. N'empêche que selon le calcul, encore une fois, de François Bourque ce matin, ça prendrait encore 100 ans à ce rythme pour rembourser la dette de Québec. 100 ans. Donc, un siècle de remboursement de dette encore pour la ville de Québec. Je vais vous faire entendre le maire Régis Labeaume qui a commenté justement cette question-là. Lui, d'abord, s'est vanté de donner beaucoup de détails en lien avec son budget 2020.
Plus t'en donnes, moins on entend de démagogie. Alors là, tu sais, puis ça correspond aussi avec le gros projet qu'on a, là, qui est le plus gros dans l'histoire de la ville. On se dit aussi bien de mettre le plus de cartes sur la table possible, il y aura moins de questionnements puis moins de démagogie. Alors, ça aide politiquement, effectivement, ça aide, parce que ça empêche des gens de dire n'importe quoi.
Qu'est-ce que vous allez répondre à vos adversaires qui disent déjà, et vont probablement continuer à dire que la ville de Québec est trop dépensière et qui craignent aussi, ces gens-là, une éventuelle récession?
Ben, je pense pas que le chef de position a du pif pour sentir les récessions. Là, ça m'étonnerait. Là. Je vous l'ai montré, là. La dette de la ville, si on était dépensier à ce point-là, comment se fait-il qu'on est rendu dans les villes les moins endettées du Québec alors qu'on était dans les plus endettées? Ça marche pas, là, tout simplement.
Reste que bien des gens, sans doute, qui auraient apprécié avoir une baisse de taxes compte tenu de la quantité de surplus qu'il y a. Et d'ailleurs, le maire Labeaume s'est défendu en disant que, ben non, ils sont pas si taxés que ça, les gens de Québec. Quand on regarde ça, ils ont payé 68 % de moins en augmentation de taxes la moyenne des villes du Québec. Ce qui est pas faux. Si vous regardez ce matin à Montréal, qui a présenté son budget également, c'est 2,1 % d'augmentation. Reste que tout le monde aurait apprécié un petit break par rapport à ça. Évidemment, le chef de l'opposition, Jean-François Gosselin, est allé d'une charge contre le maire Labeaume, notamment en lien avec le service de la dette.
Imaginez, on est rendu sur 5 ans. Là. Quels vont être les vrais coûts dans 5 ans? On le sait pas, mais on en parlait depuis des semaines. On se demandait, avec tout ce qu'il annonce, comment est-ce que le maire va faire pour arriver. Aujourd'hui, on a notre réponse. La carte de crédit est pleine. Et le maire a décidé d'étirer les paiements sur 5 ans au lieu de 3.
Alors voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce budget de la Ville de Québec? Écrivez-moi au 25226. Auriez-vous apprécié un petit répit, une petite baisse de taxes, même symbolique? Auriez-vous préféré qu'on utilise davantage de fonds pour s'attaquer à la Ville? Gênez-vous pas pour m'écrire au 25226. Même suspendu, le maire de l'ancienne Lorette continue de faire parler de lui. Émile Loranger, qui, vous le savez, là, présentement, ne siège pas. Il est suspendu pendant 60 jours sans solde parce qu'il a plaidé coupable à des manquements à l'éthique. D'ailleurs, c'est même pas lui qui élabore le budget de sa propre municipalité. Sauf que malgré tout, on le retrouve à la une du Journal de Québec ce matin et on apprend que M. Loranger a, c'est le moins qu'on puisse dire, une bonne fourchette.
L'appétit va tout bas, quand l'appétit va tout bas, vis dans les futailles, à nous la répaille, quand l'appétit va tout bas.
Et là, on se penchera pas sur ce qu'il y a dans le panier d'épicerie du maire Loranger exactement, mais davantage sur ses factures au restaurant en tant que maire de l'ancienne Lorette. Si j'avais donné en 1000 dans la région de Québec, là, en prenant la rive sud puis toutes les municipalités qu'il y a autour, qui dépense le plus en factures de restaurant dans le cadre de ses fonctions, ben vous seriez peut-être allé avec la population, avec le maire de la ville la plus importante. En tout cas, moi, personnellement, je vous le dis, j'aurais dit, ben oui, c'est Régis Labeaume, sans m'en scandaliser non plus, là, parce que, bon, j'imagine qu'il y a plus de représentation en tant que tel. Or, je vais vous donner le palmarès des maires au restaurant. C'est depuis 2013, c'est un bon coup du Journal de Québec. Ils sont allés, via la loi d'accès à l'information, chercher le nombre de factures et le montant de celles-ci depuis 2013 pour les maires de la région de Québec. Alors, on commence par le bas, donc sur les quatre maires dont on est allé chercher les informations. Gilles Laulier de Lévis, 13 factures depuis 2013, donc entre mai 2013 et mai 2019, totalisant 375 $. Alors, Laulier, c'est le moins dépensier de la gang. Après ça, on s'en va à Sylvain Junot, Saint-Augustin, 15 factures, 960 $. Faut dire que lui, c'est depuis 2015, parce qu'il n'était pas élu avant ça. Régis Labeaume, deuxième position, 90 factures, 2 775 $. OK? Et là, tenez-vous bien pour Émile Loranger, parce qu'on s'en va. Là, vous avez vu une petite progression là dans les dépenses. Là, on s'en va vraiment là à travers le plafond. Là. 14 000 $ depuis 2013 de factures au restaurant. 240 factures. Alors, M. Loranger se retrouve très, très souvent au restaurant. Là, bien entendu, vous vous posez la question peut-être pourquoi. On est allé lui demander sa réaction. Alors, M. Loranger a assuré au Journal de Québec que ce sont systématiquement des dîners organisés en lien avec son travail de maire. Il dit « Jamais la carte de crédit de la ville ne servait à me payer des repas personnels. Moi, quand je vais souper au restaurant, c'est avec ma femme, c'est moi qui paye. » Il dit « Toutes ces rencontres de travail, ça a été dans le but de régler des dossiers de la ville. » Des dossiers de gestion de personnel, des rencontres avec le DG pendant les négociations des conventions collectives. Puis il dit des fois aussi, j'ai payé le dîner des avocats de la ville pour éviter une facturation par la suite à la municipalité. N'empêche que quand tu regardes la population de l'ancienne Lorette, 16 583, 14 000 c'est pas loin d'une pièce par tête de pipe qui a été dépensée en restaurant pour le maire Loranger. Je veux bien croire que c'est dans le cadre de ses fonctions, mais on peut se poser la question pourquoi la facture a explosé autant pour M. Loranger, qui réussit toujours à faire parler de lui, que ce soit par son absence ou par sa fourchette au restaurant. Je termine en vous parlant d'une grève qui a des conséquences majeures présentement au Québec, notamment pour les agriculteurs. C'est la grève des cheminots au Canadien national, au CN. Il y a 3200 employés présentement qui sont en grève depuis le début de la semaine prochaine. Donc, ça va faire bientôt deux semaines que le CN est en grève. Vous savez, on voit pas toujours ce qui se passe dans les convois, que ce soit les camions, les transports, les trains, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais force est d'admettre que lorsqu'il y a une grève puis lorsque ces gens-là travaillent pas, on réalise les effets sur le quotidien. Or, le CN transporte notamment le propane. Ça sert pas juste à allumer le barbecue pendant l'été. Le propane, ça sert à chauffer des écoles, ça sert à de sources d'énergie dans des hôpitaux et ça sert beaucoup aux agriculteurs aussi, notamment les producteurs de grains qui en ont besoin pour sécher leurs grains puis pour les récoltes également. Ils en ont besoin de propane pour ça. Or, le propane se rend plus au Québec. On va en manquer probablement d'ici samedi ou dimanche. C'est selon le ministre de l'Énergie, Jonathan Julien, là, qui hier faisait un peu l'état de la situation en lien avec cette pénurie de propane-là, qui fait en sorte que présentement, normalement, on devrait avoir 6 millions de litres de propane à utiliser par jour, sauf que là, on est obligé de le plafonner à 2,5 millions de litres, ce qui fait en sorte qu'on laisse carrément les agriculteurs sur la touche. On y va avec les services essentiels, les écoles, les services de santé. Alors, il ne reste plus une goutte de propane pour les gens qui en ont besoin du côté des agriculteurs, les producteurs de grains, qui manifestaient d'ailleurs à Montréal là-dessus. Évidemment, c'est du ressort du fédéral. Là. On est en négociation présentement des employés du CN. Et là, on essaie d'invoquer une loi spéciale du côté du Québec. On dit au fédéral, faites une loi spéciale, faites en sorte qu'ils retournent au travail parce que là, nous autres, bientôt, on va être carrément à sec. Alors, je vais faire entendre d'abord le ministre de l'Énergie, Jonathan Julien, qui explique la situation d'urgence en lien avec cette pénurie au Québec.
Même si la situation se régularise, disons, cette semaine, ça ne veut pas dire que le lendemain, le propane est au Québec. Il va avoir une période tampon de 48-72 heures pour rétablir l'approvisionnement. Donc, oui, on est toujours en situation critique. Oui, on est en situation d'urgence. Le ministère lève toutes les roches possibles pour augmenter, pour trouver des nouvelles sources d'approvisionnement. Mais on convient tous qu'on est assez limité dans nos capacités d'intervenir.
Là, présentement, on en fait venir du côté de l'Alberta. Là, je sais qu'il y a des réserves qui s'en viennent. Apparemment, il y aurait du propane dans le Maine, mais qu'on n'est pas capable de le transporter. C'est principalement ça. Le problème, c'est le transport de la ressource plus que la disponibilité en tant que telle en raison de la grève des cheminots au CN. Et là, évidemment, il s'est défendu parce que, bon, les agriculteurs l'attaquent un peu sur l'impossibilité d'y avoir droit. On craint pour les récoltes, on craint pour la survie de certaines entreprises agricoles. Et Jonathan Julien a expliqué la façon dont on allait répartir la quantité de propane d'ici la fin du conflit.
Faut pas se le cacher, là. Ce qu'on tente de faire actuellement dans les moyens qu'on a, c'est d'être en mesure de préserver le 2,5 millions de litres le plus longtemps possible. Le 6 millions de litres par jour qui serait nécessaire pour couvrir, entre autres, le milieu agricole et le volet grain et végétal. Sans que la situation de la grève avec le CN soit réglée, c'est pas possible de l'envisager.
Et du côté du fédéral, on assure que présentement, on est toujours en train de négocier avec le syndicat 20 heures sur 24. On essaie d'arriver à une solution négociée le plus rapidement possible. Par contre, on n'a pas pour l'instant de résultats concrets en lien avec cette négociation-là. Il y a évidemment le spectre de la loi spéciale qui plane, mais c'est certain qu'il va falloir remédier à la situation rapidement parce qu'il y a des gens qui sont très affectés présentement au Québec par cette situation. Je vous le rappelle, selon le rationnement actuel, le 2,5 millions de litres de propane quotidiennement. On devrait se rendre jusqu'au week-end, mais après ça, on va être dans un fichu pétrin. 5h presque 15, au FM 93. On est mardi le 26 novembre. Merci d'être là dans l'amorce. On prend une courte pause et au retour, on jase de sport.
FM 93. Pour être à la fine pointe de l'information, c'est Bouchard en parle.
Dans mon temps, le défilé de la Saint-Jean-Baptiste, c'était ça. Garde paroissiale puis majorette. Connaissez pas ça, des gardes paroissiales?
Même moi qui suis plus vieux que toi, je connais pas ça.
C'est les gens à l'église qui faisaient la sécurité.
Appelez la garde!
Non.
Ils étaient armés, les gardes paroissiaux.
Ben non! Vous êtes méprisants envers les institutions catholiques traditionnelles.
Bouchard en parle. Du lundi au vendredi, dès 5h30. FM 93. Ça me parle.
Quand vous mangez au parmesan, vous goûtez une tradition familiale que Luigi a ramenée d'Italie il y a maintenant 45 ans. Goûtez au meilleur veau parmigiana à Québec. Le jambon, le saumon fumé, le prosciutto et le vinaigre balsamique sont toujours préparés par Luigi lui-même. Laissez-vous tenter par les manicottis à la Luigi avec ricotta, épinards et le vrai parmesan reggiano. Et le prix? La table d'hôte du soir est à partir de seulement 29,95 au parmesan avec l'accordéoniste à tous les soirs. Vivez la Dolce Vita! Service de voiturier gratuit.
Voici une histoire vraie. Harold est travailleur autonome, un super bon gars, toujours avec le sourire, qui aide tous ses amis, prêt à un, prêt à l'autre. Il finit par s'endetter jusqu'au cou et il en perd son sourire. Il raconte son histoire à sa grande amie Jacqueline qui dit quoi? Va donc rencontrer l'équipe de Jean Lelièvre syndic autorisé en insolvabilité. Ça lui a coûté 500$ par mois pour 60 mois et maintenant, la tempête est passée. Et le plus important, il a retrouvé son sourire. Faites comme Harold, visitez jeanlelièvresyndic.com.
Un nouveau gouvernement vient d'être élu et avec lui, plus d'incertitudes que jamais à propos d'un grandiose réseau de transport structuré en Québec. Troisième lien, tunnel, tramway, on discute même d'un TGV entre le Vieux-Québec et Limoilou. Une rumeur court d'un téléphérique Québec-Windsor. Pendant ce temps, Option Subaru t'offre la nouvelle Outback Commodité 2020, entièrement redessinée à partir de 32 808 plus un rabais spécial de 500$. On a hâte, nous aussi, de voir le tracé final de la piste de bobsleigh entre Beauport et Vanier. Mais en attendant, venez donc nous voir. Slogan.
Ta meilleure option, c'est Option Subaru.
Humanité, c'est LA résidence privée pour aînés atteints de troubles de la mémoire. Un environnement exceptionnel, inspiré des meilleures pratiques mondiales et offrant une qualité de vie sans précédent. Humanité, c'est 12 maisonnées personnalisées où les résidents participent à la vie communautaire. C'est 36 salles thématiques où ils peuvent s'adonner à leur passion. C'est des employés, des bénévoles, des parents et des amis qui s'allient pour leur bien-être. Un milieu de vie unique pour aînés atteints de troubles de la mémoire. Humanité.ca.
À Place Sainte-Foy, nous savons que votre temps est précieux, spécialement aux fêtes. Nous vous offrons donc un service de voiturier pour mieux profiter de votre magasinage à Place Sainte-Foy. Après 3 utilisations, obtenez un essai routier gratuit de 2 jours offert par Infinity Québec. Détails à placesainte-foy.com.
Adieu mazout, bonjour énergie renouvelable. Vous souhaitez convertir le système de chauffage de votre habitation par un système alimenté par une énergie renouvelable comme l'électricité? Avec son programme Chauffe et Vert, Transition énergétique Québec vous offre de l'aide financière pour le faire. Optez pour un système de chauffage plus efficace, plus sécuritaire, plus économique et qui n'émet aucun gaz à effet de serre. Inscrivez-vous à chauffezvert.gouv.qc.ca et visez l'efficacité énergétique. Un message du gouvernement du Québec.
Où est-ce que vous allez trouver des rabais de 50% pour le Vendredi fou?
Sur maboutiqueradio.ca.
Ce vendredi, visitez maboutiqueradio.ca et découvrez plusieurs nouvelles offres, toujours à 50% de rabais. Par exemple, 50% de rabais au Portofino, chez Planète X, Niki Sushi, au Toscanos, au Shaker et au Coureur Nordique.
Le Vendredi fou, c'est le moment d'économiser pour les cadeaux des fêtes avec les nouvelles offres à 50% sur maboutiqueradio.ca.
Maboutiqueradio.ca.
L'amorce avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
5h18 au FM 93. Bon matin, bienvenue dans l'amorce. Nous sommes le mardi 26 novembre 2019. Déjà, et il fait relativement chaud aujourd'hui. On est encore un petit peu au-dessus des normales de saison et on va garder ça à peu près jusqu'à la fin de la semaine, je vous dirais. Aujourd'hui, maximum de 4 degrés. Par contre, ça va être gris, de la pluie ou de la brune intermittente dès ce matin. Risque de brune verglaçante, là, ça va dépendre le côté que la température va prendre. Par contre, c'est déjà assez chaud au-dessus du point de congélation. Demain, mercredi, généralement nuageux avec des percées de soleil maximum de 2. Jeudi, la journée la plus chaude et la plus ensoleillée de la semaine, maximum de 5 degrés. Il y a du soleil également qui est prévu. À long terme, pour le week-end, ce serait du soleil avec des températures un peu à la baisse, qui vont ressembler un petit peu plus au normal de saison. Et en ce moment, on a 1 degré à Québec. Dan Pou, bon matin.
Salut Jean-Simon.
Tu me dis qu'il y a eu un gros lundi hier soir?
Ouais, un gros lundi dans la LNH avec 9 matchs, ce qui est plutôt rare. Normalement, il y en a 2 ou 3. Mais comme cette semaine, c'est le Thanksgiving aux États-Unis, on a un peu remodelé l'horaire, ce qui fait en sorte que jeudi, on laisse la place au football avec un seul match LNH. Ce sera d'ailleurs un match présenté au Centre Bell entre Piquet Subban, les Devils et le Canadien. Alors que vendredi, ce qui va être très inhabituel, il y aura 12 matchs dans la Ligue nationale de hockey, dont certains présentés en après-midi, étant donné le congé aux États-Unis. Ouais. Donc hier, on se retrouvait avec 9 matchs. Et sans que le Canadien joue, le Canadien a perdu du terrain hier dans la course aux séries. Tu vas me dire, calme-toi, on est le 26 novembre. Puis là, tu me parles déjà des séries, c'est le 8 avril que ça va finir. Mais en même temps, si on regarde pas le classement-là, on le regardera jamais. Il y a un plus du tiers... de la saison de fait. Et les équipes qui rivalisent avec le Canadien, Tampa, Philadelphie, Pittsburgh ont gagné. Les Rangers ont gagné et Columbus ont gagné. Les Rangers et Columbus, c'est pas des adversaires sérieux du Canadien, mais ils ont quand même gagné leur match.
Ouais.
Il y a juste les Islanders qui ont perdu hier dans les équipes qui se battent pour une place en série avec le Canadien.
Le Canadien, il ferait-tu les séries à l'heure où on se parle?
En date d'aujourd'hui,
ouais.
Oui.
Okay.
Mais derrière eux, ça pousse. Quand ils regardent dans l'angle mort, ils voient beaucoup d'autos. Il y a beaucoup d'autos qui s'approchent de la caravane du Canadien. Puis il faut considérer que Toronto et Tampa, sur papier, c'est d'excellentes équipes qui n'ont pas des bons débuts de saison, mais qui pourraient venir qu'à faire les séries. Donc s'ils participent aux séries, comme en date d'aujourd'hui, ils ne sont pas classés, mais il faut que tu en enlèves 2 qui sont déjà classés. Et le Canadien, évidemment, fait partie des équipes vulnérables d'ici la fin de la saison. Mais le Canadien, ce soir, c'est contre Boston. Patrice Bergeron n'y sera pas parce qu'il va manquer 2 matchs. Il est blessé. Il est resté à Boston. Il ne sera pas ni à Montréal ce soir, ni à Ottawa
demain. Si on suit la tendance de la saison, ils vont gagner. Ils viennent de perdre 4 fois contre des mauvaises équipes.
C'est ça. C'est ça. C'est une grosse semaine pour le Canadien. C'est 4 ouais. matchs. C'est plutôt rare qu'on joue 4 matchs dans une semaine. Puis il y en a 2 contre les Bruins ce soir et dimanche soir prochain à Boston. Je vais te parler brièvement de la nouvelle coqueluche de la NFL qui s'appelle Lamar Jackson. C'est un carrière de 22 ans qui a été le choix 32e au total. Donc, fin de première ronde en 2018. Pas le dernier repêchage au mois d'avril dans la NFL, celui précédent. Et Lamar Jackson est sensationnel. Hier, il a lancé 5 passes de toucher dans le Monday Night. Son équipe a gagné 45-6 à Los Angeles contre les Rams, les finalistes du Super Bowl. Et lui est tellement mobile qu'il a couru pour 95 verges. Puis là, ta première question, c'est wow, 95 verges, c'est-tu beaucoup? Ben, c'est dans la moyenne. Un porteur de ballon, lui, il est carrière, ouais. Je te le rappelle, un porteur de ballon qui court pour 100 verges connaît un excellent match. Lui, c'est un quart, puis il a couru pour 95 verges. Ça te donne une idée à quel point le kid a du talent. Il a seulement 22 ans, je te le rappelle.
Merci beaucoup, Dan.
À tantôt.
Yes, 5h22. On parle souvent de chiens dangereux dans l'actualité pour les mauvaises raisons. D'ailleurs, il y a un article ce matin dans le Journal de Québec en lien avec des victimes qui veulent qu'il y ait une loi plus sévère en lien avec les chiens dangereux. Donc, ça revient souvent dans l'actualité. C'est rare qu'on parle de chiens dangereux pour les bonnes raisons. Mais ça a été le cas hier parce qu'il y a un invité particulier qui était du côté de la Maison-Blanche aux États-Unis. Un chien qui s'appelle Conan, qui a travaillé à l'opération qui a mis fin à la vie d'Abou Bakr al-Baghdadi. Vous vous souvenez, qui était le calife autoproclamé de Daesh, le groupe armé État islamique. Et ce chien-là était de passage du côté de la Maison-Blanche, en présence de Donald Trump, en présence de toute son équipe également. C'est un chien qui a participé à la traque du chef de l'État islamique dans le tunnel où est-ce que le chef s'est fait exploser. Vous vous souvenez de cette opération-là de grande envergure. Où est-ce que finalement on a réussi à le 27 octobre, on a annoncé que al-Baghdadi s'était retrouvé cantonné dans un tunnel avec ses enfants, s'était fait sauter finalement. Mais je savais pas qu'il y avait un chien militaire qui avait travaillé à cette opération-là. Conan a reçu une médaille d'honneur qui est la plus haute distinction disponible dans l'armée pour les États-Unis. Et on indique aussi que ce chien-là a été gravement blessé pendant l'opération, mais qu'il a réussi à s'en remettre. Et bon, quelques petites citation amusante, là, parce que Donald Trump, évidemment, a commenté le travail du chien, puis il a demandé, il a dit, quelles sont les chances d'un homme fort, d'un vrai combattant face à Conan? La réponse, comme prévu, c'est qu'il n'aurait aucune chance. Ne vous lancez dans aucun combat face à Conan. Vous avez aucune chance. Effectivement, c'est un chien qui a été, élevé pour se battre dans un contexte militaire. Alors, vous imaginez un peu à quel point ça peut être un atout pendant une opération militaire de cette envergure-là. Je termine avec une petite nouvelle qui m'a surpris ce matin. En une du Journal de Québec, les bagels trônent avec une photo d'un producteur de Québec, François Joyet, de la boulangerie Chef Francky. Saviez-vous que les bagels, ça pognait en Chine? De plus en plus, en Asie, il y aurait un intérêt pour les produits de boulangerie, notamment ceux du Québec. Et là, on serait en phase d'exportation de bagels de sa compagnie. On dit qu'il y en aurait déjà 45 000 kilos qui auraient été envoyés en Chine ou au Japon. Et puis ces produits-là sont disponibles dans des Costco. Il y a des Costco en Chine ou au Japon, apparemment. Et ce serait quelque chose qui serait présentement à la mode, là, les types pâtisserie, les types boulangerie en Chine. Et on parvient à aller les chercher, notamment, apparemment, grâce à la qualité de notre farine. Donc, c'est une bonne nouvelle, une nouvelle avenue commerciale, des bagels en Chine. Tant mieux si les gens de l'Asie apprécient nos produits d'ici. 5h25, merci d'avoir été avec moi dans l'amorce. On se reparle sans faute demain matin dès 5h. Et dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.